VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui. VOA Afrique, édition du jeudi 3 mars 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Nathalie Barge.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, 7 personnes, dont un sous-préfet, ont été tuées par des hommes armés dans le sud-ouest anglophone.
En Guinée, un éboulement sur une mine d'or a fait au moins 10 morts dans le nord-ouest du pays.
Au Sénégal, 5 ans de prison ferme requis contre Barthélémy Diaz, le nouveau maire de Dakar, pour coup mortel en 2011.
Des responsables ukrainiens confirment la prise par l'armée russe de Kherson, grande ville du sud.
Et selon le patron du HCR, 1 million de réfugiés ont fui l'Ukraine en une semaine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, 7 personnes, dont un sous-préfet et un maire, ont été tuées hier dans l'attaque de leur convoi par des hommes armés sur une route du sud-ouest anglophone, en proie à un sanglant conflit séparatiste. Le point avec Rosine Munezero.
Aux environs de 11h, heure locale, le sous-préfet était en tournée dans un convoi de 4 véhicules à Bekora, dans la région administrative du sud-ouest, a déclaré le gouverneur régional Bernard Okalia Bilahi à la télévision d'État. Au passage du convoi, des terroristes ont déclenché les explosifs et se sont mis à tirer sur la voiture, a poursuivi le gouverneur. 7 personnes, dont le sous-préfet, un maire et un responsable local du parti au pouvoir, ont été tués dans cette attaque. Un premier bilan de sources locales faisait état de 5 morts. Hilaria Allegrosi, chercheuse au sein de l'ONG Human Rights Watch pour le Cameroun, affirme que l'utilisation d'engins explosifs par les combattants séparatistes n'est pas nouvelle, mais qu'elle a pris de l'ampleur depuis l'année dernière. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, 89 ans, est accusé par les ONG et l'ONU de mener une répression implacable dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone du Cameroun, pays majoritairement francophone.
En Guinée, au moins 10 personnes ont été tuées par un éboulement de terrain dans une mine d'or à Kounsitel, dans le Nord-Ouest du pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon Mamadou Chérif Diallo, maire de cette commune rurale de la région de Boké, l'éboulement est survenu mardi dans cette mine qui avait été fermée mais continuait d'être exploitée. Les gens sont allés travailler clandestinement sur les lieux. C'est dans leur manœuvre que la mine s'est effondrée, a dit Monsieur Diallo. Il précise que les recherches se poursuivent et que le nombre de personnes qui étaient dans la mine n'est pas connu, ce qui fait craindre un bilan plus lourd. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée. Au moins 15 personnes avaient été tuées en mai 2021 par un éboulement de terrain dans une mine d'or exploitée clandestinement près de Sigiri, dans le nord-est de la Guinée. Ces mines artisanales attirent aussi des travailleurs venus du Mali, du Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.
Au Sénégal, le parquet général a réclamé hier 5 ans de prison ferme contre Barthélémy Diaz. Le nouveau maire de Dakar est jugé en appel pour la mort d'un homme tué par balle en 2011 dans un contexte de violence politique. Le procès en appel de M. Diaz, renvoyé à de multiples reprises ces dernières années, était très attendu en raison de ses implications politiques.
M. Diaz, farouche opposant au pouvoir, a pris les fonctions éminentes de maire de la capitale le 17 février pour le compte d'une coalition nationale conduite par Ousmane Sonko, prétendant déclarer à la présidentielle de 2024 « Je suis poursuivi pour des raisons politiques ». Pas pour des raisons judiciaires, a répété M. Diaz à la barre.
Les détracteurs du président Macky Sall font remarquer qu'avant M. Diaz, 2 autres de ses adversaires, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre Karim Ouad, fils d'ex-président, ont vu leur trajectoire interrompue par les ennuis judiciaires ces dernières années. Ousmane Sonko, quant à lui, est depuis 2021 sous le coup d'une enquête pour viol présumé. Tous crient au complot ourdi par le pouvoir qui, lui, se défend de toute instrumentalisation de la justice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces russes ont pris Kherson, grande ville du sud de l'Ukraine, une victoire importante pour Moscou. Elles encercleraient aussi Mariupol, le principal port ukrainien de la mer d'Azov, entre la Crimée déjà annexée par la Russie et le Donbass séparatiste.
La seconde ville de l'Ukraine, Kharkiv, continue de faire l'objet de bombardements intenses qui ont atteint entre autres des bâtiments de la police et de l'université. Selon l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, un membre de sa mission d'observation en Ukraine a été tué dans ces bombardements.
Dans un premier bilan publié sur ses pertes, la Russie a dit que 498 de ses soldats ont été tués en Ukraine. On ignore le nombre exact des victimes de chaque côté. L'ONU a parlé de 227 civils tués et le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé hier soir l'ouverture immédiate d'une enquête sur de possibles crimes de guerre en Ukraine après avoir reçu le feu vert de 39 États partis de la CPI.
Hier à New York, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Le vote a été approuvé massivement par 141 membres. 5 pays s'y sont opposés et 35 se sont abstenus, dont la Chine, sur les 193 nations que compte l'organisation. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le résultat a été salué par une salve d'applaudissements. Les 5 pays ayant voté contre sont la Russie, le Bélarus, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. La résolution ponctuant plus de 2 jours d'intervention à la tribune de l'ONU réclame à Moscou qu'il retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires d'Ukraine et condamne la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires. La résolution appelle en outre à accorder à l'aide humanitaire un accès sans entrave sur fond de discussion ardue au Conseil de sécurité sur un projet franco-mexicain de résolution sur le même sujet et déplore l'implication du Bélarus dans l'attaque de l'Ukraine. L'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergei Kitlitsia, avait dénoncé juste avant la tribune de l'ONU un génocide en cours dans son pays perpétré par la Russie, exhortant à l'action de la communauté internationale pour ne pas rééditer ce qu'a fait Hitler. La Russie, par la voix de son ambassadeur Vassili Nebentia, s'est défendue d'attaquer des cibles civiles. Outre l'Amérique du Nord et l'Europe, la résolution a bénéficié d'un vote favorable de nombreux États africains et d'une grande majorité des pays d'Amérique latine.
La Russie s'est déclarée hier prête à discuter dès aujourd'hui d'un cessez-le-feu avec l'Ukraine, malgré la poursuite des frappes russes sur plusieurs villes ukrainiennes dans un conflit dont Washington a déploré le bilan humain ahurissant. Entre-temps, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a annoncé ce jeudi qu'1 million de réfugiés ont fui l'Ukraine à destination des pays voisins depuis le début de l'invasion russe il y a une semaine.
Ici, aux États-Unis, le premier procès d'un des assaillants du Capitole le 6 janvier 2021 s'est ouvert hier. Un militant d'extrême droite du Texas a comparu devant un tribunal de Washington. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Accusé d'avoir tenté de forcer l'entrée du Capitole avec des centaines d'autres manifestants, au moment où les élus certifiaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle, Guy Refit, 49 ans, plaide non coupable. Des photos le montrent pourtant, casque sur la tête et portant un gilet pare-balles sur les marches du Capitole, se nettoyant les yeux. Circonstance aggravante, il aurait porté une arme de poing lors des heurts et à son retour à Willie, près de Dallas, il aurait menacé de mort ses 2 enfants qu'il avait dénoncés à la police. Il était parvenu en haut des marches du Capitole, mais avait battu en retraite après avoir été aspergé de gaz au poivre par les policiers qui défendaient l'édifice. Une foule a besoin de meneurs et cet homme est venu tout droit du Texas pour remplir ce rôle, a dénoncé le procureur Jeffrey Nessler à l'ouverture des débats. Guy Refit, membre de la milice d'extrême droite Triple Centers, encourt jusqu'à 20 ans de prison au terme de ce procès qui doit durer au moins une semaine. Les 2 enfants de l'accusé doivent témoigner pour confirmer avoir subi des menaces de leur père.
La Minute Éco, Rosine Mounézéro.
Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a ordonné mercredi un audit général du secteur public, une mesure visant à insuffler la bonne gouvernance dans l'administration, selon un communiqué officiel. Ces contrôles prendront la forme soit d'un audit de gestion, soit d'un audit d'investigation, de détection de fraude financière. Ils porteront également sur les passations des marchés publics, de voyages et de carburant. Les records tombent tous les jours. L'invasion russe de l'Ukraine a conduit à une envolée totalement inédite des cours des céréales et des oléagineux et a bouleversé les routes traditionnelles des grains qui cherchent désormais à contourner la mer Noire. En séance mercredi matin, maïs et blé sont arrivés quasiment à parité, autour de 370 euros la tonne sur l'échéance de mars, à un niveau jamais vu en Europe, souligne Damien Vercambre du cabinet Intercourtage. La Commission européenne a laissé entendre mercredi qu'elle pourrait prolonger la suspension de ses règles de rigueur budgétaire au-delà de fin 2022 en fonction de l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine sur l'économie de l'Union européenne. Bruxelles a publié mercredi ses orientations budgétaires pour les États membres de la zone euro en 2023. La Commission insiste sur le besoin d'assurer la soutenabilité de la dette grâce à un ajustement budgétaire progressif et souligne le besoin de différenciation des politiques budgétaires selon les pays.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite de notre série sur la présentation des équipes qui prennent part à la Basketball Africa League saison 2, l'association sportive de la ville marocaine de Salé, en abrégé AS Salé, version basketball, fait partie des 12 équipes issues des 12 pays africains sélectionnées pour participer à la Basketball Africa League qui débutera le 5 mars à Dakar. Pour affronter cette compétition, l'équipe a été confiée à une Australienne, Liz Mills. C'est une première fois au Maroc, une femme à la tête d'une équipe masculine de première division. Mills est aussi la toute première femme à avoir entraîné une équipe masculine de basketball en Afrique. Elle a mené l'équipe nationale du Kenya à la finale de l'Afrobasket en 2021 pour la première fois en 28 ans. Elle a maintenant 11 ans d'expérience. Liz Mills dit avoir confiance en l'AS Salé et pense que l'équipe triomphera.
La force de cette équipe, c'est l'expérience. Je crois qu'on a la meilleure équipe d'Afrique et ces joueurs ont suffisamment d'expérience pour vaincre les autres équipes à la Basketball Africa League. Ceci est très important et on va pouvoir créer une nouvelle génération avec des jeunes joueurs marocains qui pourront révéler leur talent en compétition. In the
upcoming games. Avant de s'envoler pour Dakar, le club s'est beaucoup entraîné en séance collective et a régulièrement disputé des matchs contre d'autres équipes. L'ailier Shams Eddine Alal fait partie de cette nouvelle génération sur laquelle le club s'appuie.
Nos forces, c'est d'abord le coach qui nous donne les instructions, l'équipe qui joue avec le cœur et on joue pour gagner. C'est pour ça, on joue toujours pour gagner, sans oublier l'effort du président et tous les gars derrière le club.
L'équipe dirigeante qui veut aller encore plus loin avec son club ne lésine pas sur les moyens. Abderraouf Bentaleb, son vice-président, expose la nouvelle vision qui permettra à l'AS Salé de toujours se maintenir à un bon niveau.
On avait eu une génération qui nous avait permis de gagner plusieurs titres et des trophées dans le passé. Aujourd'hui, il est nécessaire de renouveler l'équipe, de la rajeunir. On a donc recruté 6 joueurs de haut niveau qui sont en train de s'intégrer et s'adapter au style développé dans l'équipe.
Le premier match de l'AS Salé l'opposera à Reg du Rwanda. Les basketteurs espèrent non seulement faire partie des 4 meilleures équipes qui se qualifieront pour les playoffs du tournoi, mais aussi aller encore plus loin pour succéder au club égyptien de Zamalek, tenant du titre. En football, l'homme d'affaires russe Roman Abramovich a annoncé que le club anglais de Chelsea, dont il est propriétaire depuis 2003, est à vendre. Invoquant la situation actuelle, il a précisé qu'il ne demanderait pas le remboursement des prêts qu'il a concédés au club londonien, estimé à 1,8 milliard d'euros et que le produit net de la vente serait reversé à une fondation caritative au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Quelques-uns de ces résultats, les tenants du titre Milwaukee ont battu de justesse Miami 120 à 119. Ce n'était pas aussi serré entre les Sixers de Joel Embiid et de James Harden face à New York 123 à 108. Charlotte a battu Cleveland 119 à 98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Ndamiba a été investi hier président de la transition. C'est lui qui devra, pendant les 3 prochaines années, diriger ce pays durement touché par le terrorisme. De nombreux acteurs espèrent que les nouvelles autorités arriveront à bout de cette insécurité. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Après sa prestation de serment en tant que président du Faso, celui qui a renversé le président Roch Kabore le 24 janvier a été investi comme président de la transition. La salle qui abrite le procès des présumés assassins de Thomas Sankara a accueilli la cérémonie. Moment inédit, le port du collier de grand maître des ordres burkinabés. Le lieutenant-colonel est ainsi fait président de la transition. Fin de la cérémonie, les réactions sont diverses. Monique Yelikam, présidente du MRB, Mouvement pour la Renaissance Burkina Faso, candidate à la dernière élection présidentielle.
Cette transition pour nous est une pause. Et une interpellation pour toutes les composantes de notre société. Une interpellation à faire mieux dans la gouvernance, dans la sécurité, à répondre aux aspirations profondes du peuple burkinabé.
Brigitte Zungrana, trésorière nationale du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso.
Nous attendons à ce qu'ils prennent en compte les aspirations de la jeunesse du Burkina Faso et qu'ils travaillent à l'inclusion des fils et des filles du Burkina.
Pascal Zaïda est membre de la CNTR, Coordination nationale pour une transition réussie.
Notre souhait, c'est de voir le Burkina Faso retrouver la paix, la stabilité et le retour de la sécurité afin que tous ceux qui sont victimes, notamment les PDI, puissent donc rejoindre leur site d'accueil. Ce qui veut dire que nous attendons donc du président Damiba la mise en œuvre d'une feuille de route et une charte inclusive.
Omar Bokoum, éleveur Peul.
Avec l'arrivée du président Damiba, nous aurons la quiétude dans nos pâturages, nous aurons vraiment le vivre ensemble avec nos confrères agriculteurs qui sont en même temps des éleveurs. Voilà. Et nous aurons aussi la réduction aussi des groupes armés dans nos pâturages et dans nos zones de pâture.
C'est Idoussia, Burkinabé de la diaspora.
Je connais qui il est et de quelle volonté il a animé. Et depuis les 3-4 jours que je suis ici, j'ai eu à parler avec mes promotionnaires, des anciens. Je sais ce qui les anime. Je suis confiant.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est ainsi fait président de la transition. La charte adoptée lundi nuit prévoit une transition de 3 ans. Il devra nommer un premier ministre civil dans les prochains jours qui, lui, formera un gouvernement de 25 membres maximum, selon la charte. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci Lamine. Le conflit de 6 ans entre le Burkina Faso et les groupes terroristes s'est étendu au sud-ouest du pays et se répand dans les pays voisins. Face à cette situation, les groupes de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme. Pour en savoir plus, Henry Wilkins s'est rendu dans le sud-ouest du Burkina Faso. Son reportage est repris ici par Dili Deko.
Binta Sangaré, dont le nom a été changé pour protéger son identité, raconte que des hommes armés sont entrés chez elle une nuit de novembre en criant et braquant leurs torches sur elle. Elle dit qu'ils ont ensuite enlevé son mari et disparu dans la nuit.
Juste après leur départ, nous avons entendu des coups de feu. Ils ont tué 7 personnes cette nuit-là. Nous avons retrouvé les corps de 6 d'entre eux et le dernier quelques jours plus tard. Nous avons trouvé le corps de mon mari et l'avons enterré.
Elle affirme que les hommes qui ont emmené son mari étaient des militaires burkinabés. Lors des funérailles de son mari, ils sont revenus et ont détenu des personnes de l'ethnie Peul, dit-elle.
Ils sont venus pour enlever et tuer sans motif ni enquête. Cela nous fait peur tous les jours.
Le Burkina Faso lutte depuis 6 ans contre des groupes armés liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. L'année dernière, le conflit s'est propagé vers le sud. Les informations faisant état d'exécutions extrajudiciaires par les forces de sécurité burkinabées, connues sous le nom de FDS, se sont multipliées. Les groupes de défense des droits humains affirment qu'il existe une idée fausse répandue selon laquelle les Peuls sont à l'origine d'une grande partie des attaques terroristes et affirment que les Peuls constituent la plupart des victimes des forces pro-gouvernementales. La VOA s'est entretenue avec 7 témoins dans la municipalité de Djigoué, dans le sud-ouest, qui ont déclaré que des proches avaient été enlevés ou tués par les forces de sécurité en novembre. Certains ont allégué que des milices civiles soutenues par le gouvernement ou VDP étaient impliquées dans les morts et les disparitions. Un témoin, dont l'identité est également protégée, a déclaré que les miliciens d'Ozo ont tué son neveu par balle. Il dit que les attaques terroristes ont augmenté et que les forces gouvernementales comptent sur les Dozo pour maintenir la sécurité. Écoutons ce témoin anonyme.
Maintenant, les FDS restent dans leur base et laissent les Dozo partir dans la brousse. Au début, les FDS étaient accompagnés par les Dozo et ils interrogeaient tous les groupes ethniques. Mais comme les choses sont entre les mains des Dozo, ils ne s'intéressent qu'aux Peuls.
Le groupe burkinabé de défense des droits humains, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, affirme que 17 personnes ont été assassinées à Djigoué en novembre. Dans une interview accordée à la VOA, le fondateur du groupe, Daouda Diallo, a appelé les dirigeants burkinabés à agir. Human Rights Watch affirme que les FDS, qui ont pris le pouvoir en janvier, ont commis de nombreuses exécutions extrajudiciaires depuis le début du conflit. Les FDS n'ont pas répondu à une demande de commentaire de la VOA.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, des villages le long de la frontière nord avec le Nigeria ont formé ces dernières années des milices d'autodéfense pour lutter contre Boko Haram et informer les autorités des activités suspectes. Ces comités dits de vigilance étaient exclusivement masculins jusqu'à l'année dernière. Depuis un certain nombre de femmes ont fait leur entrée. Un reportage d'Anne Kwanzu à Mora, relaté par Michel Joseph.
Chaque matin, Awa Youssoufa prend son arc et ses flèches et rejoint ses collègues à l'entrée de son village. Elle fait partie d'une milice locale à Mora, une ville camerounaise non loin de la frontière avec le Nigeria. Le rôle de cette milice est d'intercepter tous les étrangers qui arrivent pour les contrôler et s'assurer qu'ils ne transportent pas d'armes ou d'explosifs. Awa Youssoufa est l'une des 4 femmes de cette milice de 132 membres. Elle a dû faire ses preuves pour être acceptée.
Un jour, je revenais des champs et j'ai vu une jeune fille qui me paraissait étrange. J'ai appelé les militaires. L'armée a interrogé la jeune fille et a confirmé qu'elle était suspecte. Les militaires m'ont alors demandé si j'étais membre du comité de vigilance. J'ai dit non. Ils m'ont ensuite emmené chez le chef du village et celui-ci m'a dit que désormais, je pouvais faire partie du comité.
Des comités d'autodéfense ont vu le jour dans l'extrême nord du Cameroun il y a quelques années pour protéger les populations locales contre Boko Haram. Alors qu'à l'origine, ces groupes étaient composés uniquement d'hommes, des femmes les ont rejoints et participent aux activités de surveillance sur le terrain. Certaines, comme Adja, qui est un nom d'emprunt, surveillent les cercles féminins dans les villages pour détecter qui aiderait Boko Haram.
Il y avait des femmes qui communiquaient avec leurs maris dans la brousse. Les maris envoyaient de l'argent et les femmes achetaient de l'essence. J'ai découvert qu'elles avaient l'habitude de mettre le carburant dans des sacs en plastique pour le faire passer pour de l'eau. Elles mettaient ces sacs dans des glacières qu'elles transportaient au Nigeria. Grâce à mes informations, les militaires ont fait une descente dans la zone et démantelé ce réseau.
Les membres de la milice ne portent pas d'armes à feu. Ils n'utilisent que des machettes, des frondes, des arcs et des flèches. Ils inspectent les sacs pour s'assurer qu'aucun objet dangereux n'y est caché. Ils travaillent tous comme bénévoles, mais aimeraient être rémunérés. Mouagabe est président du comité de vigilance du village de Kourgui.
Concrètement, nous voulons aussi à chaque fin du mois
qu'on nous donne ne serait-ce qu'un perdième. Et les vivres, comme nous ne cultivons plus, on a les champs que les parents ont défrichés, mais on n'arrive plus à arriver à travailler aux champs. Le manger même à la maison, c'est vraiment difficile.
Zaki Boukar, adjoint au maire de Mora, a révélé qu'une aide est déjà apportée au ministre.
Qu'il a subventionné avec beaucoup de matériel, tant matériel que financier, et aussi le renforcement des capacités par les partenaires qui sont venus, ils les ont formés, ils ont aussi donné des appuis. Tout ça, c'est l'œuvre du chef de l'État qui a su vraiment entretenir des bonnes relations avec les partenaires au développement.
Les responsables de Mora disent que des plans sont en cours pour augmenter le nombre de femmes au sein des milices villageoises.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le président américain Joe Biden a défini mardi soir, dans son premier discours sur l'état de l'Union, les grands axes de sa politique intérieure et extérieure devant les deux chambres réunies du Congrès. Quelques Africains sur le continent ont suivi avec intérêt le traditionnel discours du chef de l'exécutif américain. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint à Dakar Dame Babou, président de African Communications Network.
Je dois vous avouer que, après avoir écouté une grande partie du discours, mais évidemment consacré à la situation en Ukraine aujourd'hui, en ce moment, j'ai fait le tour de la toile comme une patrouille pour voir quelles sont les réactions par rapport à ça, mais je n'en trouve pas. Et je pense que ça ne surprend pas. Le discours lui-même n'a pas inclus l'Afrique du tout. C'est vrai que dans la situation actuelle, je ne vois pas quel serait l'angle de traitement si Biden devait parler du continent. Et je ne vois pas non plus peut-être l'angle de traitement des pays africains s'il devait réagir à ce discours de Biden qui est en fait destiné au peuple américain et à la Russie et les alliés des États-Unis, surtout en Europe.
Donc pour vous, c'est normal au regard de ce qui se passe dans le monde, qui est gravissime actuellement?
Absolument, mais je pense que en Afrique, nous avons peut-être besoin de réajustement mental, parce qu'on est trop préoccupé par ce que les autres pensent de nous ou disent de nous. Nous avons notre poids, nous avons notre situation. Aujourd'hui, je ne vois pas si l'Afrique devait être considérée dans ce qui se passe de très, très grave, comme vous dites, dans le monde aujourd'hui, que l'Afrique va subir de toute façon. Mais nous ne ferons pas plus que subir ce qui se passe, parce que je ne vois pas quel est le poids que l'Afrique pourrait faire. Aujourd'hui, apparemment, les États-Unis et les alliés des États-Unis décident de mener une guerre sur le plan de l'économie, sur le plan des finances, sur le plan peut-être de l'appui à l'Ukraine, pas une guerre physique directement pour le moment. Et dans ce domaine-là de l'économie et des finances et tout ça, je ne vois pas la pertinence de l'Afrique dans une telle discussion. L'Afrique peut attendre, les autres vont décider et l'Afrique va subir parce que c'est le choix que les Africains ont fait en fractionnant notre continent en petits pays qui ne peuvent pas peser d'un poids quelconque sur les grands événements.
Donc pour vous, l'Afrique sera prise à toutes les sauces qu'elle n'est pas invitée à préparer?
Absolument, parce que l'Afrique ne s'est pas positionnée pour pouvoir être invitée. L'Afrique ne peut même pas amener de fagots parce qu'elle n'en a pas les moyens. On veut continuer à avoir 54 pays et bientôt peut-être 56 quand on aura fini de fractionner d'autres pays. Et nous voulons continuer à avoir 54 drapeaux, 54 présidents et nous ne faisons même pas plus de 3% de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, j'imagine que si l'Afrique avait un seul ambassadeur qui parle à son nom dans le domaine international, personne ne l'aurait oublié. Mais si aujourd'hui, toutes les décisions économiques et financières de l'Afrique revenaient d'une seule entité, personne ne nous aurait oublié. On se contente de notre Union africaine, dont même le siège est financé par d'autres. Je pense qu'il y a 60 ans, un chercheur, Cheikh Anta Diop, nous l'avait prédit. On disait que nous n'avons pas le temps d'une union politique et apparemment, nous ne sommes toujours pas prêts à y penser. Donc, nous ne serons pas invités à la préparation. Quand on aura fini de manger, on nous demandera probablement de nettoyer.
Dame Babou, président de African Communications Network. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seloudia et Nathalie Barge, à la mise en onde Fatouma Kalala Limassi et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.